9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Marianne Vic, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez Le Prince de Babylone, un livre consacré à Yves Saint-Laurent, qui était votre oncle et votre parrain. Alors pourquoi les éditions du Seuil ont-elles écrit roman sur la couverture? Parce que tout est vrai, comme dans les romans de Dostoïevski ou de Flaubert.
Voilà, exactement. Tout, c'est une fiction basée sur des faits réels, voilà. Comme on ne dit pas.
Mais quel but vous poursuivez, vous, personnellement? Est-ce que vous voulez rendre justice à Yves Saint-Laurent en le débarrassant des mythes qui l'entourent, en relevant sa face noire aussi, les souffrances qu'il lui a fallu endurer pour dessiner ses créations. Vous voulez qu'on imprime la réalité au lieu d'imprimer la légende?
Alors, je ne me sens pas du tout justicière. Franchement, je pense qu'il vaut plus que le mythe. C'est valable pour lui, mais pour d'autres personnes aussi célèbres qui valent plus que ça, parce que finalement, c'est archi-réducteur, un mythe, forcément.
C'est moins émouvant, c'est moins touchant.
C'est une simplification, et on passe à côté de tout ce qui est humain, trop humain.
C'est fou ce qu'il a souffert, hein, Saint-Laurent, dans sa famille, d'abord, avec une mère qui ne faisait pas attention à lui, à l'école ensuite, où en tant qu'homosexuel, il était agressé par ses camarades, chez Christian Dior ensuite, où il n'est pas du tout l'assistant préféré, le successeur désigné, et quand il devient le successeur quand même, à la mort de Christian Dior, il n'était pas libre, hein, on s'immisçait dans son travail, on lui imposait des limites, et l'on a fini même par s'en débarrasser. Et même une fois à la tête de sa propre maison de couture, on a l'impression, en vous lisant, que ses créations le font souffrir. Et quand il ne peut plus créer, il va souffrir. Et quand il va fermer sa maison, il va souffrir aussi.
Là, je pense qu'on s'aperçoit que... Enfin, aujourd'hui, on vit dans un monde où tous les jeunes gens ont envie d'être riches et célèbres. Voilà, c'est la célébrité, le quart d'heure warholien avant l'heure. Il a obtenu ce qu'il désirait, néanmoins il est passé complètement à côté du bonheur. Il a réalisé ses rêves, mais d'où viennent ses rêves? Est-ce qu'il suffit de réaliser ses rêves pour être épanoui? Il n'a jamais été épanoui malheureusement, et c'était, comme vous venez de le rappeler, une succession
de tragédies.
Sa vie est une tragédie, ouais. Voilà.
C'est une tragédie. En plus, il y a beaucoup de masochisme, il est maniaco-dépressif. Il passe une bonne partie de son temps, de sa vie en tout cas, à l'hôpital.
Oui, c'est-à-dire que l'élément, la folie d'un homme. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas cette folie qui l'a mené à la créativité. Je pense que c'est l'inverse. C'est dans les moments où il était dans une certaine sobriété, le mot est à la mode, mais pour d'autres raisons, c'est ces instants de clarté qui lui ont permis justement de créer ce qu'il est peut-être allé puiser dans ses abysses intimes, mais il fallait quand même ce moment de sobriété intellectuelle.
Mais vous, Marianne, vous êtes quasiment la seule de la famille qui l'admet près de lui, à part sa mère. C'est un gros dossier, sa mère, hein, c'est autre chose. Oui. Vous en parlez longuement. Mais vous...
C'est souvent un gros dossier, la mère.
Il paraît. Vous vous retrouvez régulièrement à déjeuner avec votre oncle, qui est votre parrain. Il est très tendre avec vous, très attentionné. Mais en même temps, ces déjeuners, vous ne les faites pas durer dans le livre. On ne sait pas. Il était rassurant, il était inquiétant pour une petite fille et ensuite pour une adolescente.
Alors... Pour être franche, Frédéric, ils étaient tous extrêmement inquiétants pour une petite fille. En fait, c'était un peu les misfits et les enfants ont cette capacité de s'adapter. Et je me suis adaptée hein, à cet entourage et comme on dit, je n'ai pas bougé une oreille. J'avais deux éléments qui m'ont structurée, l'école d'un côté et la religion, puisque je suis d'une génération où on allait encore au catéchisme. Et disons que je me suis raccrochée à ça. Et il y avait ces personnages familiaux dont Yves était la figure paternelle, pour diverses raisons. En fait, c'était vraiment l'élément, ma figure paternelle. Et grâce au couple qu'il formait avec Pierre Berger, on va dire que cette figure paternelle, en tant que couple, arrivait à me donner un certain équilibre. Voilà. Mais certes, c'est assez iconoclaste. Comme...
Oui, parce que la famille, c'est quand même quelque chose. Hein, et dans la vie de Saint-Laurent, et dans la vôtre, et dans ce livre, puisque c'est une tragédie avant tout familiale, avec des secrets de famille, des mensonges, des drames. Et pour vous, tout ça, au fond, irrigue toute la suite.
Oui, mais j'espère être la preuve vivante qu'on peut s'en sortir sans être complètement tendu, un peu simplement.
En tout cas, ça permet d'écrire de bons livres.
Merci.
C'était pas du tout un fan de littérature, comme on le dit d'ailleurs. Vous racontez que sur sa table de chevet, il y avait la Bible, Proust et une biographie de Zinedine Zidane.
Ah oui, Zidane. C'est-à-dire que là aussi, celui qui aimait les livres, et c'était absolument sincère, c'est Pierre Berger. Et Yves était fasciné par Proust puisque à partir de son adolescence, c'est quelque chose. Il faut savoir que quand il était adolescent, personne ne lisait Proust. C'est pas comme aujourd'hui, en fait, où il n'y a pas de livre de poche, etc. Donc il a eu accès et ça l'a vraiment soulagé dans la douleur d'être homosexuel, de se savoir homosexuel. C'est une grande douleur pour lui et de voir cet écrivain qui était quand même déjà extrêmement reconnu parler aussi librement et ouvertement de l'homosexualité.
C'est une douleur pour lui, il faut dire, parce qu'on lui en a infligé les conséquences. Dans l'Algérie française,
voilà,
de l'époque, c'était pas très bien porté.
La vie coloniale des années 50 n'était pas tendre pour l'homosexualité, pour bien d'autres choses aussi. Mais n'est-ce pas toujours le cas, quand même, dans certains endroits ?
Marianne Vic, vous dites qu'au fond, Saint-Laurent n'a pas du tout contribué à libérer les femmes, comme il le prétendait. Il était génial, certes, mais il a enfermé les femmes dans ses fantasmes à lui. Des femmes fatales, destinées à plaire aux hommes. Au fond, c'était les hommes qui étaient la cible, d'après vous, des créations d'Yves Saint-Laurent.
Oui, là, on est dans le... Je ne vais pas citer dans les, mais c'est très René Girard, le désir mimétique. J'espère que ça parlera aux auditeurs, mais c'est vrai que Yves... de par ses souffrances, celles qui lui ont été infligées, celles qu'il s'est infligées, était pas très tendre envers ses congénères, et notamment les femmes, hein, puisqu'il y avait ce rapport très toxique avec sa propre mère, et il était incapable d'aimer vraiment une femme. En fait, il parlait, il était entouré de certaines des femmes qu'il côtoyait, étaient célèbres, mais devant elles, il était tout sucre, tout miel, mais en fait, dans leur dos, c'était terrible. Il sortait des insanités que je ne peux même pas répéter.
Vous l'appelez l'homme qui aimait si mal les femmes.
Oui, bien sûr, parce que c'est... Je me plais à croire qu'il aurait aimé apprécier les femmes. Ça...
Mais il y a chez lui l'impossibilité d'aimer, d'après ce que vous racontez.
Oui, oui, c'est transmise par sa mère. Et je pense que toutes ces personnes ont des circonstances atténuantes et j'espère que c'est assez clair dans ce que j'écris.
Marianne Vic, vous, sa nièce, sa filleule, le seul membre de la famille qu'il acceptait, au fond, vous n'êtes pas allée à son enterrement en 2008 où il y avait tout Paris, mais vous étiez à la commémoration de sa mort, du 10e anniversaire de sa mort en 2018 à l'église Saint-Roch où il n'y avait presque personne.
Voilà, parce que justement, c'était pas du tout
un événement mondain. Vous avez même lu un texte.
Voilà.
Alors, j'allais vous dire pourquoi.
Parce que c'était plus, on n'était plus dans le registre de la mondanité. En 2008, c'était vraiment l'équivalent d'un défilé de mode. C'était, il fallait placer les gens, etc. Il y avait un sitting. Je voudrais pas être très désagréable, mais je pense que pour se recueillir, c'était pas l'endroit où il fallait être.
Et la commémoration, 10 ans plus tard ?
Alors, 10 ans plus tard, en 2018, alors il n'y avait plus personne, pour une bonne raison, c'est qu'entre-temps, Pierre Berger...
Était mort.
Et il faut savoir que à la fin de sa vie, c'est surtout Pierre que les gens craignaient. Donc ils obéissaient en fait dans un certain milieu à Pierre. Et une fois qu'il était mort, c'était plus la peine de se déplacer pour aller rendre un hommage à Yves Saint-Laurent. Ces gens-là s'en foutaient royalement. Les fidèles étaient là.
Oui, ils étaient moins nombreux, visiblement.
Ah ben, le noyau de fidèles.
Un sacré livre, en tout cas, Le Prince de Babylone. C'est signé Marianne Vic et ça vient de paraître aux éditions du Seuil, avec écrit roman dessus, mais il ne faut pas le croire.
Merci.